بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شيخ الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité de nous réunir après la salat al-dhahr, accomplie en congrégation, pour parler du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala et parler principalement de ce mois de Ramadan tellement important, mois à propos duquel vous avez déjà entendu beaucoup de discours, beaucoup de hadith, beaucoup de versets du Coran. Il n'y a pas un musulman qui ne donne pas de l'importance à ce mois de Ramadan. Que ce soit un musulman régulier à la masjid, quelqu'un de muttaqi, Allah seul sait qui est muttaqi, quelqu'un qui s'investit pour la cause de la religion, ou quelqu'un qui se sent un petit peu plus éloigné, qui fréquente de manière périodique les lieux de culte. Mais d'une manière générale, dans le monde entier, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, le Ramadan reste un ibadah fédérateur, reste un acte d'adoration qui, bi-idhnillah, ravifie la foi de chaque personne qui a la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans son cœur. Et mes chers frères et sœurs, il faut savoir que notre prophète alayhi salat wa salam, lorsqu'il nous a décrit les vertus, les bienfaits qu'il y a de ce mois de Ramadan, il a donné des descriptions qui ne se retrouvent dans aucun autre moment de l'année ni aucun autre pilier de l'année. Et quand on parle de pilier, quand on parle de pilier des piliers périodiques qui reviennent, on pense immédiatement au Hajj. Et quand on pense au Hajj, on pense au Wukuf Arafat, on pense tout ce qu'il y a comme bienfait. Mais même pour le Wukuf Arafat, le nombre de vertus qui sont citées n'atteignent pas ce qui est promis durant le mois de Ramadan. Et petite parenthèse aussi, quand on pense du Hajj, quand on parle du Hajj, on pense du Wukuf Arafat. Hein, c'est le ressenti de tout le monde. Moi personnellement, moi ça me rappelle notre défunt, notre cher ami Zab, Marhum Younous. On ne peut pas s'empêcher de penser à lui. Et quelqu'un me le rappelait encore dernièrement, certainement l'année dernière, à la même époque, il était présent au programme du mois de Ramadan. Et c'est bien là le taqdir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnat Allah. Allah décrit, a décrété qu'il y a des gens qui viennent de ce dunya, ils passent un certain nombre de temps, ils ont une tâche à effectuer, ils ont des épreuves, ils ont des difficultés, ils ont des ni'am, ils ont des bienfaits, ils ont des ibtila, ils ont des difficultés, ils ont à gérer une vie familiale, une vie sentimentale, une vie professionnelle, les relations avec les gens, différentes choses qu'ils pourront faire avancer la société, qu'ils pourront faire pour élever leur âme, leur ruh, leur iman. Et puis à un moment donné, ben il faut retourner vers Allah. Et personne n'y échappe. Quel que soit notre niveau de dîn, notre niveau de ilm, de connaissance, quelles que soient nos origines, que le nafsi, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Si même Nabi alayhi salatu wassalam a dû retourner auprès d'Allah, alors que c'était l'homme le plus aimé, que dire, c'était la créature la plus aimée par Allah Azza wa Jal. Afa imitta fahumul khalidun. Si toi, ô prophète d'Allah, ô Muhammad, tu meurs, penses-tu que d'autres personnes vont rester dans ce dunya? Chaque personne un jour devra retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les larmes coulent, les cœurs sont gros. On a les sentiments, on a la reconnaissance envers un homme qui est exceptionnel. Des personnes que j'ai rarement rencontré quelqu'un de si profitable, qui nous a tout appris, tout ce qu'on peut faire, bi'idhnillah, de nos jours, pour le Hajj, que ce soit pour les visas, que ce soit pour les démarches. C'est une parenthèse, excusez-moi, si on est à tampon, c'est la première fois qu'on a l'occasion de faire un programme de Ramadan et que c'est tellement proche aussi, il faut le rappeler. Tout ce qu'on a comme acquis la plupart des personnes, bi'idhnillah, ça revient. On espère que les hasanats lui reviendront, inshallah, et qu'Allah illumine sa tombe et qu'Allah lui accorde les plus grandes récompenses imaginables qu'Allah seul connaît. Allah seul sait comment rétribuer les pieux serviteurs, et que le jour des comptes, il sera parmi les pieux, parmi les nabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada, wa salihin, et qu'Allah lui accorde le firdaus, bi ghayri hisab, inshallah. Donc pour revenir à notre sujet, chaque musulman est conscient de ce qu'Allah Azza wa Jal a promis durant ce mois de Ramadan. Notre prophète alayhi salatu wa salam une fois avait dit aux sahaba, mais c'est un hadith, on le répète, mais vous l'avez déjà entendu depuis 16 jours. Ja'akum Ramadan, ce mois est arrivé. Et le prophète décrit, katabAllahu alaykum siyam, durant ce mois Allah Ta'ala prescrit le jeûne. Durant ce mois, tuftahu fihi abwabul jinan. Depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, les portes du paradis restent grandes ouvertes. Ça n'arrive jamais, ça, en dehors du mois de Ramadan. Même pas pendant le Wukuf Arafat. Et durant ce mois, les portes de l'enfer sont fermées. Depuis le premier Ramadan jusqu'au Eid, les portes de l'enfer restent fermées. Les shayatines, Les diables sont enchaînés intégralement durant ce mois de Ramadan. Et dans ce mois, Allah vous accorde, à vous, communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un cadeau inestimable qu'aucune communauté n'avait eu avant vous. Toutes les communautés avaient eu le Ramadan. Comme un kutiba ala alladhina min qablikum, le hadith, le verset qu'on connaît. Le jeûne vous était prescrit comme il était prescrit aux autres communautés. Ils ont eu le Ramadan, mais il y a des choses que nous on a eu musulmans de la umma du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam que les autres communautés n'ont pas eu. Entre autres, il y a le suhur, le repas du matin, qui est une spécificité de cette umma, qui est une grande sunna, et la nuit du destin. Laylatul Qadr, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dit que fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Il y a dans ce mois une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Et il y aura certainement l'occasion, dans la dernière décade, les ulama de la localité ils expliqueront quelles sont les vertus de cette nuit et comment un mu'min doit essayer de s'appliquer. Donc, dans ce mois, Allah Azza wa Jalla nous accorde des choses extraordinaires. Bienheureux ce musulman qui sera profité de ses bienfaits durant ce mois. Ce n'est pas pour rien, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, dans certaines sources, certaines versions, il conclut ce hadith en rappelant ses bienfaits. Et à la fin, il dit فَأَدُّوا فِيهِ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا. Donnez en ce sens le meilleur de vous-même. Ô musulmans, que ce soit Abou Bakr, Umar, Uthman, Ali, que ce soit n'importe quel musulman, 2000, en 2010, 2020, 2050, Allah seul le sait, chaque mu'min à l'approche du mois de Ramadan doit se fixer des objectifs, car le prophète a dit addu fihi anfusikum khayran, faites le mieux, faites au mieux, faites le maximum d'efforts, un encouragement, une exhortation à se dépasser mutuellement dans l'accomplissement des bonnes actions. Et bien malheureux par contre, parce qu'il y a l'autre sens aussi, bien malheureux ce mu'min qui n'aura pas compris que ce mois-là c'est un cadeau inestimable de la part d'Allah Azza wa Jal, et qui laissera filer ce jour comme n'importe quel autre mois de l'année, mis à part le fait qu'il ne mange pas et qu'il ne boit pas le midi. Il aura juste décalé ses horaires de repas, mais mis à part ça, il va garder les mêmes habitudes. Et quand on parle des mêmes habitudes, c'est Wallah Musta'an, il va garder les mêmes péchés. Il ne va diminuer en aucun cas la quantité de ses péchés, ni il va faire des efforts pour faire un peu plus que ce qu'il fait en temps normal. Il ne va pas se fixer des objectifs, faire telle bonne action en plus, qiyamul layl, tahajjud, plus de dua, plus de sadaqa, plus de dhikrullah, plus de lecture du Coran, ihsan envers les gens, etc., etc. Il ne va pas se fixer des objectifs. Donc, Bassam a dit, ce musulman qui laisse passer ce Ramadan, Bassam a décrit, فَإِنَّ الشَّقِي كُلَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ. Le plus malheureux, vraiment, le plus malheureux, c'est celui qui laisse passer la rahma d'Allah durant ce mois. Alors que la rahma d'Allah, le Bassam a décrit ce mois comme étant شَهْرٌ مُبَارَكُ, un mois béni dans son intégralité. Depuis le premier jusqu'au dernier jour, le Ramadan, c'est que du bénéf, c'est que de la baraka, c'est que de la bénédiction. Et cette bénédiction, elle touche toute personne qui a la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah de son cœur, à condition que la personne veuille bien faire un effort, à condition que la personne veuille bien montrer à Allah Azza wa Jal qu'on est là, on est motivé, on est présent, on a envie de se rapprocher d'Allah, on a envie d'obtenir ce contentement d'Allah, le rid d'Allah, le contentement d'Allah, on veut le paradis, on a besoin du Jannah, on a besoin d'être protégé de l'enfer. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, je veux avoir le paradis. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhala al-jannah faqad faz, je veux être protégé de l'enfer, je veux que ma famille aussi soit protégée du Jahannam. Et je veux être dans le paradis avec mes proches. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salah min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Je veux que le jour des comptes, Allah Azza wa Jalla m'accorde mon livret de compte dans la main droite. Je passe le sirat à la vitesse de qui, à toutes les étapes que vous savez, et qu'Allah m'installe dans son paradis qu'il a créé de ses propres mains, et que j'y suis, j'y reste pour l'éternité avec ma femme, mes enfants, que j'y retrouve mes parents, j'y retrouve mes grands-parents, toute ma famille, toute ma génération, pour vivre éternellement dans le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce mu'min qui laisse passer cette occasion, c'est vraiment quelqu'un qui se prive. Le hadith dit bien le plus malheureux, man hurima fi rahmatullah, qui a été privé. Mais en fait, celui qui a été privé de la bénédiction d'Allah durant ce mois, c'est celui qui se prive lui-même. C'est pas qu'Allah décide de dire que lui, telle personne, ils ne bénéficieront pas de ma rahma. Jamais de la vie. La rahma d'Allah, elle est wasi', elle est grande. Elle couvre tout le monde. Mais si ce mu'min ne fait pas l'effort dans les bonnes œuvres et
par rapport à ses péchés, à ses manquements, cette personne risque de se priver lui-même. Il se met hors jeu, il se met sur la touche lui-même et il se prive de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, que ce Ramadan, on a besoin de le pratiquer. Pratiquer le jeûne, faire la salat al-tarawih, faire les ibadah d'une manière générale. On a besoin également de vivre les valeurs du Ramadan. On a besoin de vivre les valeurs qui sont instaurées par le biais du jeûne, la philosophie, la hikmah, la sagesse qu'il y a dans le jeûne. On a besoin de le vivre dans notre quotidien avec comme objectif de pouvoir le vivre toute l'année, toute la vie. On a besoin de comprendre surtout le sens de ce ibada. Parce que mes chers frères et sœurs, chaque ibada qu'Allah Ta'ala a révélé pour cette umma a une manière d'être pratiquée. C'est ce qu'on appelle le fiqh, la jurisprudence concernant les règles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qui annule? Qu'est-ce qui renforce? Qu'est-ce qui le rend makruh? D'accord? Et il y a un objectif, il y a un tracé de l'ibada. Il y a une marge de progression dans chaque acte d'adoration et il y a un aboutissement, un objectif à atteindre. L'objectif de la salat, l'objectif du jeûne, l'objectif du hajj, l'objectif de la sadaqa, de tous les ibadas, en finalité c'est le même objectif. Obtenir le contentement d'Allah, l'agrément d'Allah, être et rester, vivre dans le droit chemin. Mais chaque ibada, chaque pilier est un tarbiya différent. Chaque pilier est une éducation. Chaque pilier de l'islam nous permet de développer des qualités, nous permet de développer des sifat que les sahaba radiallahu anhu majma'in, eux, l'avaient. Ils l'avaient intégré et ils le vivaient au quotidien. C'est pour ça qu'il y a trois types d'approches du Ramadan. Il y a l'approche culturelle. L'approche culturelle, c'est quoi? C'est même pas nécessaire d'en parler vraiment. C'est pour certaines personnes qui considèrent le Ramadan comme quelque chose qui fait partie de la culture et non du culte, non de la religion. D'accord? Pour le Ramadan est synonyme de gâteau, de préparation, de telle chose, de fête, etc., etc. On retrouve ce syndrome dans les pays comme la Réunion, parfois, dans les pays indiens, bien sûr, mais malheureusement dans beaucoup de populations, même dans les pays arabes. Malheureusement, le grand moussiba, le grand imtila dans les pays arabes, c'est quoi? C'est arrivé le mois de Ramadan, parce qu'on aime bien parler des défauts des autres. Quand on parle de nous, on dit non, nous on est bien, nous on donne droit chemin. D'accord? Dans les pays arabes, très souvent, quand le Ramadan commence, les chaînes locales, ils instaurent des styles, c'est là, on appelle ça, enfin, des feuilletons, voilà. Des feuilletons arabes, égyptiens, syriens. Et donc ça passe en boucle, Wallah Musta'an, depuis 10h le soir jusqu'au petit matin. Et les gens, ils restent, ils regardent. Na'oudhu billah, quel travail satanique. Passer ces nuits de Ramadan, c'est comme ça. Ça, c'est de le Moyen-Orient. Qu'on pose des questions à nos frères qui sont d'Algérie, de Maroc, de Tunisie, on dit, ben, comment ça se passe Ramadan chez vous? Il dit, ben, il y en a qui viennent à la mosquée, et il y en a qui, malheureusement, ils sont détournés du droit chemin, ils pensent faire de bonnes choses, ils passent leur nuit dans les maqras, dans les cafés, avec le chai na'na, avec tout ce qui vient avec, le fumé, tout ce qui vient avec, et ils passent, ils discutent, ils parlent, et les nuits de Ramadan défilent. Ça commence depuis Isha, et si on est gentil, depuis Tarawih, jusqu'au petit matin, et ils parlent toute la nuit, et quand ils rentrent chez eux, là ils rentrent chez eux pour faire le suhur, prendre le déjeuner, le petit déjeuner, et démarrer le jeûne. Quel Ramadan, mes chers! Quel Ramadan! Donc l'approche culturelle, en rapport avec les traditions locales, ça c'est khassar, ça c'est vraiment perdre son Ramadan. Maintenant on peut combiner les deux. On a dit, il n'a pas été interdit de faire des, comme la Réunion, on fait les petits gâteaux spéciaux, tralala, tralala, et qu'en plus, on est fait vendre le cul, il n'y a aucun problème. D'accord? Mais comprenez qu'il y a une approche culturelle. Il y a des gens pour qui, Ramadan approche, il faut vérifier mon stock blanc de poulet, mon stock parsa moussa, pour faire mon nain, mon wonton, mon, etc., mon katlet, etc., il faut faire venir faire une gramme de maurice pour la chapeler, etc. Non, c'est comme ça chez nos mamans, très souvent. Moi, dans Rajab, Sha'aban, comment se fait ficar? Donc, il faut faire venir les ingrédients parce que le Ramadan reste quand même quelque chose de culturel. C'est une approche qui peut être erronée ou qui peut être accompagnée d'une approche spirituelle, mais ce n'est pas l'approche qu'on veut. Après, il y a des gens qui vivent dans le Ramadan de manière très technique, très jurisprudence, très masa'il, fatawa. Mais c'est une bonne chose. Ils connaissent exactement les règles du jeûne, les règles du tarawih et ils le font bien correctement. Alhamdulillah, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'on a besoin d'une approche plus subtile, une approche plus générale, une approche plus spirituelle. C'est ce mu'min qui, lorsqu'il va aborder, lorsqu'il vit ses joies de Ramadan, il sait exactement quel est l'aboutissement de ce jeûne. Quel est l'objectif qu'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'Allah attend de chaque mu'min à travers ce jeûne. Et lui, quand il va lire ce verset, il va aller jusqu'au bout. Il va dire ya ayyuha alladhina amanu. On parle de nous là, les ahl al-iman. Bien, on écoute donc. Kutiba alaykum as-siyam, il y a un pilier qui a été révélé. Le jeûne nous a été révélé. Donc, il prend acte de l'obligation. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, il prend acte de l'historique du ibada, que ce jeûne existait dans toutes les communautés. Bien, c'est une information en plus. Mais il ne s'arrêtera pas là. Il va aller jusqu'au bout. La'allakum tattaqun, afin que vous obteniez, vous arriviez vers la taqwa, vers la piété. Ce mu'min intelligent, éclairé, qui va vers, subhanallah, l'objectif qu'Allah a fixé de ce mois de Ramadan, cette personne-là va bien comprendre que Allah Ta'ala n'attend pas de nous, hein, que nous ayons faim, que nous ayons soif, que nous ayons mal à la tête, sommeil fatigué, tout ce dérèglement, parfois hormonal, parfois biologique de le corps. C'est pas ça qu'Allah attend à travers le jeûne. Ce qui fait également que ce mu'min qui a compris qu'est-ce qu'il est en train de rechercher à travers le Ramadan, il ne se plaindra jamais du Ramadan. Il ne va jamais dire que Ramadan est long, Ramadan est dur, il est fatigant, quand ça est fini, la faim. Il ne va pas trouver le Ramadan contraignant. Même s'il fait un travail physique difficile, il ne trouvera pas le mois de Ramadan difficile, harassant. Parce qu'il sera allé à l'essentiel. Et celui qui sait aller à l'essentiel, son fikal reste permanent. Contrairement à celui qui a un fikal culturel, bon, quand Ramadan est fini, les festivités sont terminées. Au mieux, on va faire une petite fête avec le conseil général, à la villa, à département Saint-Denis, on va festoyer, on va essayer de dissiper un peu nos machins, mais voilà, ça se terminera là. Et celui qui a l'approche technique jurisprudence, pour lui, ben, son fikal de Ramadan, c'est le fikal du rosa, du saum, de la salat au tarawih, des règles du suhur, du sehri, des règles du iftar, de la rupture du jeûne. Et quand le ramadan est terminé, son fikal est terminé. C'est logique. Tandis que ce mu'min qui travaille l'objectif final, lui il sait exactement quel est l'objectif et il sait que ces a'mal là, c'est pas la finalité. Ces a'mal ont pour objectif de l'emmener vers la taqwa. La privation de nourriture, de boisson et de rapport avec notre femme, l'objectif c'est de dompter le nafs, de faire comprendre le nafs qui sait comment ici. C'est Allah qui commande, c'est pas toi qui commande. On ne deviendra pas comme ces personnes qui prennent le nafs comme leur chef, leur divinité. Verset qu'on araita man ittakhadha ilahahu hawa. Les gens qui poussent à un extrême l'obéissance à leur nafs, que leur nafs devient comme leur, en guillemets, leur dieu, leur ilah. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. En fait, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. J'ai l'impression que je suis un homme libre. Personne n'est libre. Parce que à l'intérieur de chaque homme, il y a le nafs, il y a l'ego. Et ce nafs-là pousse l'homme à accomplir le mal, à l'exception des gens pieux. وَمَا بَرِّئُوا نَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Le nafs pousse l'être humain à accomplir très souvent des mauvaises choses. Et donc, soit on contrôle ce nafs, soit il nous contrôle. Donc, ce mu'min, il sait que le jeûne, l'objectif, c'est pas d'avoir faim, d'être fatigué. C'est pas aussi que, rencontrer une personne il y a quelques jours, elle me dit que voilà, moi quand je casse mon carême, je casse avec un petit peu d'eau, une petite date et tout, et même quand je rentre chez moi, j'essaie de manger très peu. Parce que je veux rester dans cet état de fatigue, même le soir et tout, je veux cumuler. Je dis, mon ami, c'est pas ça l'objectif. C'est quelqu'un qui est un petit peu nouveau de la religion. Il dit que l'objectif, c'est pas d'être fatigué, c'est pas question de régime non plus. C'est pas de se priver pour Allah. C'est pas que ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire comprendre au nafs qu'il y a des moments où on fait des choses, il y a des moments où on ne le fait pas. On ne le fait pas car Allah a décrété qu'il ne faut pas le faire. Il y a des fois où j'ai envie de faire des choses, c'est mubah, c'est licite, alhamdulillah, je le fais. Louange à Allah qui a rendu beaucoup de choses licites. Il y a des fois où tu as envie, tu me dictes, tu dis que j'aimerais aller à tel endroit, faire telle chose, et je te dis que non. Parce qu'Allah Ta'ala l'a décrété haram, illicite. C'est ça, le mu'min intelligent, c'est celui qui sait décrypter l'objectif qu'il y a dans le suhur, dans le iftar, le tarbiya vers les du'as, vers la reconnaissance envers Allah, le tarbiya de le suhur, d'être réveillé tôt, à l'heure où Allah Azza wa Jal descend au sama ad-dunya, au ciel intermédiaire avec cette terre, et où les malaïkas sont là, et qu'Allah Ta'ala demande, est-ce qu'il y a des gens qui demandent tawba, qui demandent istighfar, que je leur accorde istighfar durant toute l'année, ce tarbiya, ce mu'min qui fait la salat au tarawih, et qui n'est pas là à chronométrer quel imam il fait combien de rakat en combien de minutes. Il ne recherche pas le tarawih grande vitesse. Le TGV, il recherche le tarawih khushu', khudu', concentration. Écouter istima', méditer sur la beauté des versets de la révélation d'Allah Azza wa Jal. Ce mu'min qui comprend que le tarawih n'est pas une finalité. Le tarawih, c'est un acte d'adoration. On a des récompenses. Je crois que ça m'a cité quelles sont les récompenses pour celui qui reste jusqu'à avec l'imam Atayam Sarif jusqu'à la fin. Quelles sont les récompenses qu'Allah lui accorde la nuit en ibadah. Mais il sait également que le tarawih est également une tarbiya, également une école, une éducation. Apprendre mon corps, mon nafs à rester debout devant Allah. Faire en sorte que le corps comprenne que quand Allah a ordonné quelque chose, même si c'est difficile, je le fais. Parce que j'ai été créé pour ça. Allah m'a créé pour faire son ibadah. Donc si Allah me demande de rester debout, de longues unités de raka'at, si Allah me l'a ordonné, sam'an wa ta'a, j'obéis à Allah Azza wa Jal. Apprendre ce corps et apprendre à ce nafs que même si tu me demandes d'aller, de sortir, d'aller parler avec mes amis, je ne sais pas comment ça se passe au tampon, mais à Sani, venez, hein, après 4 à 4, c'est le florilège. Depuis le Ballard et Maréchal Leclerc, depuis Liberty, jusqu'à Saloji Badat, il y a tous les musulmans, Allah Akbar, toutes les générations sont en train de fumer, en train de machin, alors que l'imam lit Salat al-Tarawih, les récompenses sont en train d'être distribuées. Les gens viennent puiser dans le trésor d'Allah et les gens sont à l'extérieur en train de fumer, en train de parler, en train de discuter du dunya, en train de laisser. Shaitan est enchaîné. Shaitan doit bien rigoler, il doit se marrer. Il dit ben, n'a même pas besoin de moi. Ils n'ont même pas besoin de moi. C'est comme s'ils se sentent inutiles. Allah musta'an. Donc, le mu'min intelligent, éclairé, il comprend exactement qu'est-ce qu'Allah attend de moi à travers ces différents actes d'adoration qui ont pour objectif de m'amener vers l'objectif final qui est parvenir vers la taqwa, la'allakum tattaqoun, afin qu'on obtienne la piété. Maintenant, mes chers frères et sœurs, on a le choix de vivre son dîn d'une manière traditionnelle, mais via un tarawih, qu'on appellera tarabi avec un B en guillemets, parce que papa était bien, grand-père était bien, arrière-grand-père, et m'adressant de l'apprendre. Donc, il faut faire tarabi. Et ainsi de suite, une religion pratiquée de manière traditionnelle. Ou alors on le fait comme un devoir. Ça c'est un degré au-dessus. Une prise de conscience, le gars, le musulman qui vient régulièrement sur salat, il sait que c'est un devoir. Là, attend ça de moi, c'est obligé. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne se pose pas de questions. Il ne sait pas pourquoi il le fait. Le deuxième degré, c'est ça. Pour lui, c'est un devoir. Il fait son amas, il fait son taravi, il fait son tout ça. Mais il ne sait pas c'est quoi. Les tenants, les aboutissants, il connaît, il a entendu certains hadiths, les vertus des actions, mais il ne connaît pas plus que ça, il ne se pose même pas la question. Pour lui, à un moment donné, le problème, c'est quoi? Ça risque de devenir... Devenir quoi? Lourd. Ça risque de devenir presque un fardeau. Parce qu'il fait, il fait, il fait, d'année en année, il cumule, et il ne sait pas exactement c'est quoi l'objectif, mais pour lui, c'est un devoir. Et puis, il y a celui qui comprend sa religion. Et ça, c'est le meilleur. Ça, c'est quelqu'un qui sera toujours éclairé. C'est quelqu'un qui ne sera jamais lassé des actes d'adoration. C'est quelqu'un qui, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, se rapprochera d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il connaît qu'est-ce qu'Allah Ta'ala attend de moi à travers chaque action. C'est celui qui médite sur le sens des versets. C'est celui qui sait décrypter les a'man. Qui sait que toute action a pour objectif d'amener le insan, le musulman, vers le contentement d'Allah et vers le paradis. Et le gros souci, c'est que nous ne nous posons pas les bonnes questions. Nous nous limitons aux questions de fiqh. Demandez à Mouana Ousmane, n'importe quel alim, de quelque soit localité, de quoi les gens vous parlent avant de Ramadan. Ben des questions de masa'il. Est-ce que vous mettez goutte de le nez? Est-ce que vous mettez goutte de les yeux? Est-ce que vous mettez goutte de la bouche? Qu'est-ce que vous mettez, etc., etc. Est-ce que si j'ai pas fait exprès, j'ai mangé, ça annule, etc., etc. C'est ça les questions qui reviennent. Ce sont des bonnes questions. Parce que si on ne connaît pas ça, on ne connaît pas faire notre carême non plus. Mais malheureusement, ça se limite à ça. Et si ça se limite à ça, ça veut dire qu'on ne va pas dépasser ce stade. On va poser les mêmes questions tous les ans. On va faire le même son tous les ans. Mais quand est-ce qu'on progresse? Dites-moi. Quand est-ce que le mu'min décide de faire un pas en avant, de se rapprocher d'Allah? Quand, si on compare, excusez-moi, rien à voir avec le dunya. Hein, je commence mon insertion sociale, je commence à travailler, j'ai une petite boutique, 4 mètres carrés, un petit stand, d'accord? Je vends des sandwichs. Mais au bout de 5 ans, 6 ans, j'ai un peu plus d'argent. J'aimerais agrandir. Jusqu'à, et mon rêve, c'est d'avoir un grand restaurant, un tampon, un Saint-Denis, un Saint-Pierre, d'être une franchise, que les gens viennent, ils achètent le truc avec moi, ils vont exporter. Il y a un être humain, un commerçant, un businessman sensé, pour lui, il ne va pas rester toujours dans son petit snack. Il aimerait progresser, avancer. C'est l'ambition qu'on a pour le dunya. Chose qui est licite, n'a aucun problème. Mais mes chers frères, mais dans le dîn, on n'a aucune ambition. Donc, tout le temps, on va virer tout année comme ça même. jusqu'à ce que Malak al-Maut vienne reprendre l'âme. Dites-moi la question, c'est une question que je me pose, que chaque musulman doit se poser. Dites-moi, jusqu'à quand? Jusqu'à quand un musulman va lier Alhamdou? On le répète tout le temps, mais c'est une réalité. Pour qu'on comprenne que si on parle d'une seule chose de la religion, qu'on pratique, hein, on le fait régulièrement pour ceux à qui Allah donne la hidayah de le faire, mais qu'on se rend compte que dans chaque action, j'ai une marge de progression exceptionnelle. Mais je n'y ai jamais réfléchi. J'ai jamais pensé que je pouvais progresser dans les a'mal que je fais depuis que j'ai 15 ans. Je croyais que c'était ça et que, ben voilà, je l'ai fait et c'est tout. Mais la question que je peux me poser, je suis musulman, j'ai 60 ans. D'accord? Depuis l'âge de 15 ans, je fais la salah. Ça fait combien de temps que je fais la salah? Depuis 45 ans, je fais la salah. Mais je n'ai jamais compris la différence qu'il y avait entre Ihdina as-sirata al-mustaqim et wala ad-dallin. Il y a un problème là, oui ou non? Alors que je le répète dans chaque unité de rak'ah de chaque namaz, j'ai dû le lire 100 000 fois depuis 45 ans. Mais je ne me suis jamais posé la question, qu'est-ce que veut dire Ihdina as-sirata al-mustaqim? Et c'est quoi wala ghayr al-maghdubi alayhim? C'est quoi wala ad-dallin? C'est quoi min shari hasidin idha hasad? C'est quoi Allahu samad? C'est-à-dire que je me pose les bonnes questions, les questions concernant la manière de faire la salat, les conditions, les shurut, le wuzu, ce qui annule la salat, le sujoud au sahou, etc., etc. Mais je n'ai jamais pensé à travailler la spiritualité de ma salat. Et là, il y a un réel problème. Et c'est ça, quand le mu'min s'arrête au niveau du culte, dans son culte, dans son rapport avec Allah, il s'arrête sur l'aspect, sur l'apparence, et qu'il ne creuse pas un peu plus pour comprendre c'est quoi le sabab ou tashri', quelle est l'intention, quel est l'objectif à travers chaque ibadah, le mu'min n'avance pas. Il fait ses obligations par rapport à Allah Azza wa Jal, il les accomplit. Mais dites-moi, les sahaba faisaient combien de salat par jour? 5. C'était les mêmes salat. Combien de jeûnes par mois, par an? Les 29 ou 30 Ramadan, le hajj était obligatoire une seule fois de leur vie. Le prophète a fait combien de hajj? Un hajj. C'est-à-dire que les arcanes étaient les mêmes. Ils n'avaient pas une branche spéciale ou d'autres actes d'adoration qui ont fait d'eux des sahaba. Ils n'avaient pas des actes spécifiques à leur génération. Qui a fait qu'Allah Ta'ala a les accordé, les a gratifiés par cet éloge, radiyallahu anhum wa radu an, qu'Allah est satisfait d'eux, qu'ils ont eu la bonne nouvelle du paradis dans ce dunya? Non, c'était les mêmes actions que nous faisons là en 2012, que eux ils faisaient à Al-Madina, Al-Nabawiya ou à Makkah, et que nous on fait à Saint-Denis, à Saint-Pierre, à Tampon. C'est les mêmes choses. Et Allah Ta'ala, le hadith Qudsi, dit bien que jamais un serviteur ne se rapprochera de moi que par les choses que j'ai rendues obligatoire. Ça veut bien dire que si on veut l'agrément d'Allah, il n'y a pas besoin de chercher. Il y a des gens qui cherchent des voies exceptionnelles, d'autres méthodes pour se rapprocher d'Allah. Là, Wallah, c'est pas les a'mal. Pensez-vous une seconde, si ces piliers n'étaient pas suffisants pour nous faire progresser, Allah aurait révélé d'autres choses. Si chaque mu'min se retournait, il analysait un petit peu les actions qu'il doit faire et qu'il fait au quotidien, et il essaie de travailler ses a'mal, de développer la qualité, de développer sa relation avec Allah, de travailler son Ramadan, de travailler sa salah, travailler son dua, le mu'min décollerait. Sa foi augmenterait de jour en jour. C'est pas que je suis pareil depuis 1980 jusqu'à 2012. Où l'a pas changé, où l'a vieilli, où l'a grossi, mais est pareil. Leur foi n'est pareil. Le tawakkal ala Allah n'est pareil. Isti'ana, retour vers Allah dans les difficultés, n'est pareil, n'a pas changé. Mais notre foi n'a pas augmenté. Alors que les sahaba, pour eux, c'était un échec si aujourd'hui c'est moins bien que hier. Soit on avance, soit on recule. Et les ulama mufassirin disent que faman lam yataqaddam faqad ta'akhkhar. Celui qui n'a pas avancé, en fait, on ne fait pas de surplace de l'iman. Dans la foi, les ulama aqida dit al-iman yazid wa yanqus. La foi, ça augmente ou ça diminue. La foi ne reste pas stable jamais de la vie. Si vous ne faites pas plus d'efforts, la foi elle diminue. Donc le mu'min qui n'essaie pas de se rapprocher d'Allah par le biais de ce qu'Allah a rendu obligatoire, il ne s'imagine pas, mais il perd des points, pour dire ça comme ça, d'année en année sa foi diminue. Alors que les sahaba, comme on a dit, de jour en jour, le a'mal, c'est pas qu'ils augmentaient le degré, la quantité de a'mal, non, ils augmentaient, ils travaillaient la qualité des a'mal. Je vais demander aux sahaba concernant Abu Bakr, radiallahu anhu, il dit que Abu Bakr, il ne nous a pas dépassé bi kathrat al a'mal. C'est pas qu'il faisait beaucoup plus de a'mal que nous. Lakin shay wa qarafi qalbi. Mais il y avait quelque chose de son cœur. De son cœur, il y avait quelque chose qui dépassait tout le monde. Lors de la bataille de, ya Allah, de Hudaybiyah. Non, de Tabouk. La bataille de Tabouk. Vous connaissez l'histoire très connue. Prophète Dieu encourage les sahaba à aider. On doit préparer les musulmans pour aller à Tabouk. C'est loin. Abu Bakr amène tout ce qu'il a. Omar ibn al-Khattab amène la moitié. Uthman ibn Affan amène une certaine somme. J'ai plus en tête 10 000, je crois, une certaine somme avec des montures et tout. Certainement, Uthman, qui était un homme très riche, beaucoup plus riche que les deux autres compagnons, quand il amène lui cette somme, en termes quantitatifs, ça peut être supérieur. Et Omar ibn al-Khattab lui-même a dit que j'avais amené la moitié de mes biens, j'étais persuadé de dépasser Abu Bakr. Abu Bakr, il a tout amené. Mais ce n'est pas que la quantité, c'est l'ikhlas qu'il y avait dedans. C'est le sacrifice qu'il y avait dans l'action qu'il accomplit et dans toutes les actions qu'il accomplissait qui faisait qu'Abu Bakr reste le meilleur des hommes. Que le prophète m'a dit que, c'est une version qui dit que si on prenait une balance, la wuzina iman ou Abi Bakr bi iman et ahlil ard dun al anbiya, la rajah. Si d'un côté de la balance on mettait la foi d'Abu Bakr et de l'autre côté on mettait la foi de tout musulman, homme et femme, sahaba compris, à l'exception des anbiya, tous les ahl al-iman de toutes les époques, la foi d'Abu Bakr pèserait plus lourd. Ça, c'était iman de son cœur. Amour pour Allah, crainte d'Allah, attachement pour le din, sacrifice pour la religion, comprendre l'objectif à travers les a'mal, se rapproche d'Allah de jour en jour. Abu Bakr se dit, il sort de la masjid une fois avec le pied droit, il s'évanouit. Pourquoi il s'évanouit? C'est un guna kabira, ça? C'est une sunnah d'entrer avec le pied droit dans les endroits bien, de sortir avec le pied gauche, s'évanouit. Il dit parce que si Allah avait repris mon âme là à ce moment, il aurait repris mon âme dans une situation où je vais à l'encontre de la sunna. Qu'est-ce que je deviens? Ça c'est iman de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Quand il était encore commerçant, il avait vendu, je crois qu'il vendait des tissus, il avait vendu à quelqu'un un coupon de tissu, la personne le ramène, dit j'échange parce que je suis plus satisfait. Abu Bakr se met à pleurer. La personne dit pour un morceau de tissu, Abu Bakr se dit, dit que non, dit comme tu viens de faire, ça m'a rappelé que qui me dit que Allah n'est pas content de moi maintenant, et au moment où je reviens vers lui, Allah n'est plus satisfait de moi, il me renvoie. Qui me dit, qui me donne la garantie? Ça c'était iman des sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, et ce iman-là, il le développait par le biais des amal, par le biais de chaque acte d'adoration. Un mu'min a besoin d'aller au plus profond, d'aller à l'ibadah. Quand je fais ma salat, mes chers frères, je dois bien réaliser que quand je fais le mu'min, dit Allahu Akbar, dans son cœur, il enlève tout ce qu'il y a de ce dunya. De son cœur, il enlève sa femme, il enlève ses enfants, il enlève son travail, il enlève ses objectifs, il enlève tout ce qui le rattache au dunya. Faragul qalbi lillah. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit que celui qui veut vraiment être fi salatihim khashi'un, dévotion de la salat, la première étape c'est d'enlever de son cœur tout ce qui le rattache au dunya. On appelle ça faragh al-qalb, que le cœur devient vide et que dans ce cœur là il n'y a que la présence d'Allah, que le désir de se rapprocher d'Allah azza wa jal. Que le mu'min intelligent qui a fait sa salat, il comprend, il essaie de comprendre les positions, la hikmah qu'il y a de recours, il essaie d'avoir cette envie quand il est debout, qu'il est en recours, il doit être impatient d'aller dans le sijda. Pas parce qu'il est fatigué, il a envie de se détendre le dos. Non, parce qu'il sait que dans le sujda, il n'y a pas une position où l'être humain est le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Et que dans cette position, Allah écoute encore plus mes invocations. Et que c'est vraiment le signe de la le signe de tadallul al-qudur, le signe de la soumission envers mon Seigneur. Le mu'min intelligent, c'est celui qui essaie de décrypter sa salah. Il essaie d'aller voir un alim, d'ouvrir des livres, d'apprendre. Ça veut dire quoi, subhana rabbi al-a'la? Ça veut dire quoi, subhana rabbi al-azim? Ça veut dire quoi, amin, quand j'ai lu le Fatiha? Istajib ya Rabb, accepte, oh Allah, tout ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que j'ai demandé dans le Fatiha? Contre quoi j'ai demandé protection? Qu'est-ce que j'ai attesté qu'Allah, il est quoi? Quels sont les sifat? Que le mu'min qui fait sa salat, il arrive à comprendre que quand je dis Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Allah Ta'ala répond, Oussama, il répond, Hamidani Rabbi. Allah Ta'ala répond que mon serviteur a fait mes louanges. Que le mu'min arrive à comprendre que la salah, c'est pas juste des formules que je récite, c'est une communication entre moi et Allah. Ce mu'min qui comprend, qui recherche un peu chaque action comme ça, il va les faire avec dévotion. Il va s'appliquer. Il va vraiment réaliser que cette salat-là, c'est un trésor qu'Allah m'accorde. Il est de mon devoir de m'appliquer. Allahu Akbar, je suis en train de converser avec Allah. Comment je peux me permettre de converser avec Allah et mon esprit est ailleurs? Je suis en train de penser à autre chose. Comment est-ce que Ibn Kathir, ou Al-Fakhr Razi, un des grands mufassis, dit que quelle valeur aura ce Ihdina Sirat al-Mustaqim pour celui qui ne réalise pas qu'est-ce qu'il est en train de demander? Il va demander, oh Allah, guide-moi vers le sirat al-mustaqim, vers le droit chemin. Et le vrai tafsir de oh Allah, guide-moi vers le droit chemin, alors qu'on est tous dans le droit chemin, qu'on a la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah dans notre cœur, parce que le droit chemin sera en opposition à le chemin de al-mardoubi alayhim al-dhalin, ceux qui se sont égarés parmi les gens du livre. C'est-à-dire que le vrai sens, c'est quoi? C'est, oh Allah, garde-nous dans le droit chemin. Istiqama, rester dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah jusqu'à la mort. Mourir avec la foi, retourner auprès d'Allah avec la foi. C'est ça que je demande dans mes salats à chaque fois que j'ai dit al-salat al-mustaqim. Il dit donc, ce mu'min qui dit dit al-salat al-mustaqim machinalement sans réfléchir, dites-moi, quelle est la valeur de ce dit al-salat al-mustaqim? Comme Ibn Kathir le dit. Donc on comprend qu'à travers chaque ibadah, il y a une mine de trésors, il y a une mine de hikmah, de sagesse à obtenir pour celui qui fait un effort pour rechercher. D'où l'importance d'apprendre sa religion. Il n'est pas concevable qu'un musulman, à l'âge de 16 ans, 17 ans, il a fini la madrasa, classe 7, classe 8, classe 11, comment on classifie les classes, quels que soient les madrasas, et qu'à un moment donné, c'est fini. C'est comme si qu'il a fini, ben c'est terminé. Maintenant, il vit normalement. Ou alors qu'on se dit que celui qui apprend la religion, c'est un alim. Pour apprendre, si tu veux apprendre la religion, il ne faut pas faire Moulissab. Il faut faire Moulissab, il faut faire Moufti. C'est ça, c'est lui qui apprend la religion. Là, Wallah, le musulman a besoin d'apprendre sa religion tous les jours, toute sa vie. Parce que plus on connaît, plus on sait faire les ibadas, plus on comprend les ibadas, plus on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et plus on est éloigné des tentations, des pièges, des égarements, des wasawis, des insufflations de Iblis, de Shaytan, alayhi la'natullah. Le mu'min également, qui a compris sa salat maintenant, il a compris qu'Allah attend de moi que durant ma salat, je contrôle mon regard, je regarde par terre, je contrôle mes paroles, je ne dis pas autre chose que les formules de la salat. Même si j'éternue, je ne dis pas Alhamdulillah, je respecte les formules de la salat. Je contrôle idéalement mes pensées de la salat. Et que la finalité, on a dit que pour chaque action, il y a un tracé, il y a des règles, et qu'il y a un objectif final. L'objectif final, c'est que le mu'min arrive à développer les qualités de la salat dans sa vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours, face au péché, face au dunya, je contrôle mon regard, je contrôle mes gestes, je contrôle mes paroles, je contrôle mes pensées, je reste avec Allah Azza wa Jal, les pieds sur terre, mais le cœur avec Allah. Ça, c'est la vie du mu'min. Peut tweeter ça sur vous. Les pieds sur terre et le cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la finalité, soyez attentifs, la finalité, Irfan, la finalité, c'est quoi? C'est quand Allah Ta'ala dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » La salat éloigne du tuapitude et du mal, c'est-à-dire de tout péché. C'est-à-dire qu'on peut se dire, oui, mais ce verset-là, il veut dire quoi? Dire que normalement, un musulman, il ne fait pas de péché? Mais dites-moi, qui ne fait pas de péché? Tous les musulmans font des péchés. Donc, on finit par se dire, mais cette salat, ce verset-là, c'était quoi? C'est quoi l'objectif? C'est pas ça le sens. C'est impossible qu'une salat éloigne du tuapitude du mal. Oui, les professeurs disent que certainement, ce musulman qui saura vivre cette salat, comme on l'a dit, et qui va transplanter les conditions, la concentration, la dévotion dans sa vie de tous les jours, c'est un mu'min qui arrivera à un stade où face aux bonnes actions, par rapport aux bonnes actions, il les fera. Il ne fera jamais preuve de paresse ou de réticence quand il faudra faire un effort. On arrivera à ce stade que quand arrive l'heure de tahajjud, 3h, 4h du matin, même en dehors du ramadan, je me lève immédiatement pour me prosterner devant Allah. Quand on est face à un péché, je sors de la masjid, Nour al-Islam, qui s'appelle Nour al-Islam aussi, il y a soit de fitna, une jeune fille, belle, jolie, bombastique, fantastique, tout ce qu'on veut. Je sais que qui m'en empêche? Qui m'empêche de regarder? Moi, un chat qui ne me voit pas, papa il ne voit pas, moi, etc., etc. Allah me voit. Mais comment est-ce que j'intègre que Allah me voit? C'est quand j'ai intégré dans ma salat que Allah m'observe. quand j'ai réussi à développer cette qualité dans ma salat, Allah me regarde, Allah m'observe, je pourrais appliquer ça dans ma vie de tous les jours. Et là, on va arriver vers l'objectif que la salat nous éloigne totalement de ce qui est haram. Et c'est le même objectif du saum, du jeûne. Je m'abstiens pour Allah. Je fais les efforts, les ibadats difficiles pour Allah. Je fais un sacrifice sur les instincts naturels, manger, boire pour Allah. Je m'éloigne du haram, je m'éloigne du makruh même. Je m'éloigne des choses qui sont déconseillées, pas haram, pour Allah. Je ne perds pas mon temps parmi les choses déconseillées, perdre son temps. Twitter, Facebook, MSN, passer l'intégralité de ses nuits sur Internet, etc., etc. Je ne fais pas de Ramadan pour Allah, parce que ce temps c'est un aman, c'est un dépôt. Les personnes qui sont sous terre auraient donné l'intégralité de leur héritage pour obtenir 5 minutes de plus pour faire le dhikr Allah, pour faire le dua, pour faire l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc mes chers frères et sœurs, l'objectif de tous les ibadas c'est de ramener le mu'min vers Allah, mais on a besoin de dépasser le stade de jurisprudence, le stade de fiqh, le stade d'accomplir le ibadah pour le ibadah. Il faut comprendre qu'est-ce qu'Allah attend de nous dans chaque adoration. Quand on fait du'a au moment de rompre le jeûne, le du'a c'est pas juste Allahumma tassalam minka salam tabarata ta'adjalalikum, ou gratte, regarde si tu n'as pas un tweet, regarde si tu n'as pas un poc, regarde si tu n'as pas une notification, l'imam fait du'a et tout. On est là avec tous les musallis, mais le cœur est loin de là. C'est pas ça le du'a. Le doua, c'est que le mu'min, quand il lève ses mains, qu'on lève les mains ou qu'on ne lève pas les mains, peu importe. Quand on fait le doua, il y a deux intervenants. Il y a celui qui demande, et là c'est respectueux, il y a l'autre intervenant, il y a Allah Akbar al-Bari Azza wa Jal au-dessus de nous. Moi, je suis rien. Je suis makhlouq, créature. Je ne peux rien faire. Au-dessus de moi, il y a Khaliq, créateur, celui qui prend les décisions, celui qui m'a donné la vie, qui m'a donné la santé, qui me permet quand je descends de ce mimbar, je marche avec mes pieds, mais il n'est là, je ne suis pas sur une chaise roulante, je n'ai pas tel problème, telle épreuve, qui décide de mon rizq, de ma subsistance, celui qui, même si je fais des erreurs, m'accorde mon rizq, celui qui prend la décision, quel ange de la mort vient prendre mon âme, ange de la mort sous l'aspect, pardon, de Rahma ou de Adam, celui qui décide dans ma tombe, quelle sera ma situation, celui qui décide le jour des comptes, je suis avec les Anbiya, les Siddiqin, les Shuhada, les Salihin, ou avec Qarun, Haman et tous les grands pécheurs de la Ummah. Est-ce que je suis avec les Sahaba ou avec les pécheurs, les Fussaq, avec les personnes qui imitaient d'autres peuples? Celui qui décide comment celui-là il reçoit son livret de compte, comment est-ce qu'il passe devant le mizan, la balance, comment est-ce qu'il traverse le Sirat et où il va? Est-ce qu'il traverse le Sirat, il va de la Jannah, ou je décide qu'il tombe et qu'il va dans l'enfer? Quand je demande du'a, je m'imagine que quand j'invoque Allah, j'invoque celui qui prend les décisions de ce dunya, de akhira. Je demande à Malik, Malik de quoi? Malik yawmiddin, Rabbul alamin. Et que quand je demande du'a, je suis persuadé qu'Allah exauce. Qu'Allah exauce de la manière qu'il veut exaucer. Mais que quand je demande, je suis tout petit, je ne suis rien du tout. Quand le prophète il décrit que ce dunya par rapport au premier ciel, c'est comme quelqu'un qui prend une bague, ou il le jette fi ardin fala, un terrain vague. Il dit ça, cette petite bague que vous jetez dans un grand champ. On va adapter avec nos métaphores aussi, hein, locales. Quand vous prenez une bague jetée d'un champ canne, ça représente quoi? Incomparable, un milliard, milliardième. Elle dit ça, c'est le dunya, la terre, tout ce qu'on voit, le système solaire, par rapport au ciel, au premier ciel du dunya. Et le prophète dit que le premier ciel par rapport au second ciel, c'est comme une personne, même métaphore, qui prend une bague, qui jette dans un terrain vague. Ça représente quoi? Le premier ciel par rapport au deuxième ciel, et ainsi dessus, le second par rapport au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième, et pareil par rapport au kursi, et pareil par rapport au trône d'Allah. Vous comprenez, nous comprenons, nous réalisons, quand je demande du'a, j'invoque Al-Azim, j'invoque le sublime, le plus grand, et je dois m'appliquer, je dois me concentrer, je dois rien oublier. C'est-à-dire qu'on doit faire vivre les actions du quotidien, pas faire plus, faire mieux ce qu'on fait déjà, avec le plus de dévotion. C'est pas pour rien si dans Surat al-Mu'minun, qu'on a lu hier soir dans la plupart des masajid, qu'on a lu le 18e sipara, ya qadaf al mu'minun, on connaît le succès, les croyants. Et le prophète m'a dit, parmi ses contes de révélation, il dit que le prophète Umar ibn Khattab, il dit que le prophète m'a reçu ses versets, hein, il est resté silencieux pendant quelques temps, il s'est orienté vers la Qibla, il a demandé de longues invocations à Allah Azza wa Jal, ensuite il s'est retourné vers vous, il a dit qu'Allah Ta'ala m'a révélé 10 versets. Man qama bihinna dakhala al-jannah. Celui qui les met en pratique dans sa vie, c'est un homme du paradis. Et le prophète a cité les versets qu'Allah lui a révélé. La première qualité requise, c'est quoi? Qad aflaha al-mu'minun. Qui? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Dévotion dans leur salat. Dévotion, c'est une relation directe entre mon cœur et mon Créateur. C'est-à-dire que tout se joue dans ce cœur, dans ma relation avec Allah. Donc si on peut se fixer un objectif dans ce mois de Ramadan, mes chers frères, hein, c'est pas essayer de faire plus de katam, pas essayer de faire plus de, mais essayer de faire bien, de bien faire, de se concentrer, d'ouvrir des livres, de demander nos savants, d'essayer de comprendre le sens de chaque ibada, de s'appliquer, de ressentir le avamatullah, de ressentir la grandeur d'Allah, que dans mon sijda, Allahu Akbar, je m'imagine quelle chance que j'ai de me prosterner devant Allah Azza wa Jal. Comme on l'a rappelé, il y a des gens qui, depuis leur création jusqu'à leur mort, ils ne se prosterneront pas une fois devant Allah. Parce qu'Allah n'a pas écrit pour eux la foi. Mais quelle vie! Quel intérêt, Allahu Akbar, quel passage de ce dunya, si quelqu'un ne peut pas faire un sijda devant Allah. Et nous, quelle chance Allah nous a accordé avec la foi, depuis notre naissance, pour la foi acquise durant notre vécu, notre vie, qu'Allah nous permet de nous prosterner devant lui. Donc on prenne considération de chaque position de la salat, et qu'on arrive à vivre ces a'mal, et à se rapprocher d'Allah par le biais de ces a'mal. On va être un peu plus, on va accélérer, il y avait d'autres choses à dire, mais on va essayer de terminer, Inch'Allah, avant 2h30. Les ulama disent également que, comme on a dit, le plus important, c'est de comprendre la religion. Et pour comprendre la religion d'une manière générale, on doit essayer de développer trois qualités, de réaliser trois objectifs qu'il y a dans tous les a'mal, dans toute bonne action que j'accomplis. Quand je vais lapider les stèles Jamarat, quand je fais du'a Yom Arafat, ou quand je mets mon pied droit dans ma chaussure avant le pied gauche, qui reste un ibadah, parce que c'est une mise en pratique d'une tradition propre de Sunnah Nabi alayhi salatu wassalam. Dans chaque ibadah, dans chaque acte d'adoration, je dois comprendre qu'il y a trois objectifs. C'est pas que je le fais machinalement, non, je le fais machinalement, je suis récompensé, mais j'avance pas comme ça. J'avance à partir du moment où je comprends que dans chaque acte d'adoration, je recherche premièrement taqwa Allah. Comme le Ramadan, je recherche la crainte d'Allah. Je fais en sorte que cet acte d'adoration me permet de développer la présence d'Allah dans mon cœur, la crainte d'Allah, et d'arriver au plus haut degré. Le summum de la foi, c'est al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Que quand le mu'min fait sa salat, quand le mu'min fait n'importe quel ibadah, c'est exactement comme si il est devant Allah. Il est convaincu qu'Allah est en train de le regarder. Et donc, quand il fera face à un péché, il aura ce même reflète. Il sait qu'Allah m'observe. Comment est-ce qu'il va faire un péché? Comment est-ce que quelqu'un peut prendre une bouteille d'alcool, de bière pour boire, ou quelqu'un peut prendre un mégot, un joint de zamal, fumer? Ou comment est-ce qu'un jeune musulman peut prendre la main d'une fille, d'une copine à l'école, ou faire la bise, ou sortir avec elle? Comment est-ce qu'une femme mu'mina pourra sortir de chez elle en sachant qu'elle a un brin de cheveux qui dépasse, qu'elle ne s'est pas couverte les cheveux, si intérieurement elle a su développer la yaqin, la conviction qu'au-dessus de moi, Allah est en train de me regarder. Et qu'en plus, Allah Akbar, c'est irrespectueux, en plus qu'Allah me regarde, Allah a créé des malaïkas, kiraman, katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Ces anges, ils inscrivent tout. Et que ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, et ce que j'ai pas fait comme bonne action, à takasul, la paresse face aux bonnes actions, les malaïkas l'inscrivent. Et le jour des comptes, tout ça me sera présenté. Celui qui arrive à comprendre que je dois développer la crainte d'Allah dans mes a'mal, il deviendra le meilleur des abid, le meilleur des adorateurs d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il a compris, je veux quoi moi de mes a'mal. La deuxième chose, on peut pas trop étaler, on va aller plus vite. La deuxième chose, la deuxième qualité que je dois développer dans chaque acte d'adoration, je recherche ridallah, le contentement d'Allah. Je fais en sorte qu'Allah Ta'ala soit satisfait de moi. Quand je fais une bonne action, je veux qu'Allah est content de moi. Parce que vous savez qu'Allah Ta'ala, en plus d'avoir créé des anges qui inscrivent les actions, Allah Ta'ala a créé des groupes d'anges, vous connaissez le hadith qui se relaie matin et soir, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-layli wan-nahar, en ce sens que Allah Ta'ala crée des groupes d'anges qui se relaient matin et soir, et Allah il sait mieux, mais Allah crée tout ça, c'est l'organisation du monde, sunnatullah, mais Allah il connaît. Il y a un groupe d'anges qui nous observe le matin, il nous observe chaque personne, Muhammad, Ishaq, Abdullah, tout le monde, qu'on habite à Tampon, qu'on habite à Jeddah, qu'on habite à Riyad, qu'on habite à Sao Paulo, qu'on habite n'importe quel continent, les malaïkas sont là, ils observent. Le matin, ils voient tout ce que les êtres humains accomplissent jusqu'au soir. Et puis ils montent, ils remontent vers le ciel. Et il y a un groupe d'anges qui descend en ce moment et qui observe ce que ces gens-là font le soir jusqu'au lendemain. Et Allah Ta'ala demande à chaque groupe d'anges, « Kayfa taraktum ibadi ?» Comment avez-vous laissé mes serviteurs ? Il faisait quoi? Et Allah, il connaît ce qu'on faisait, Allah Akbar. Mais Allah Ta'ala crée ces gens dans ce but-là. Et on doit faire en sorte que je dois développer le désir d'obtenir le contentement d'Allah. Que ces anges-là disent à Allah que ce matin, la première chose qu'il a fait, ton serviteur, il a fait ses ablutions. Il a fait le qiyam al-layl, le tahajjud. Il a fait dua, il a pleuré de ses dua, il a demandé pardon pour ses péchés. Il a réveillé sa femme, il a réveillé ses enfants pour la salah. Il est parti à la masjid. Il a fait sa salah, il a lu le Coran, il a fait le dhikrullah, il a fait le shuruq, le ishraq, il est rentré, il est parti chercher son rosi halal, subsistance licite, ouvrir son magasin, ou faire son travail, bref. On doit souhaiter qu'Allah Ta'ala, subhanallah, ait ce genre de rapport, les anges font ce rapport à Allah Azza wa Jal. Et surtout pas que les anges disent que lui, il s'est réveillé à 8 heures, il s'est réveillé à 7 heures, juste avant d'aller à son travail, il a bu son café, il a mangé depuis lui, il est parti, aucun souci pour la salah. Aucun souci qu'il a au-dessus de lui un créateur qui a fixé des piliers, il n'a pas réveillé sa femme, sa femme ne fait pas la salah, ses enfants ne font pas la salah. Il s'est réveillé, dans la salle de bain, excusez-moi, on n'accuse personne. Première chose qu'il a fait, c'est raser la barbe. Aller à l'encontre de la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Et tous les jours, les anges font les rapports de l'intégralité des actions qu'on accomplit. Donc je dois bien comprendre que quand je fais une action, mon but c'est qu'Allah soit content de moi. Vous savez que le prophète, lorsqu'il jeûnait les lundis, jeudis, il a dit que ces joies-là, les actions, ça aussi c'est une autre étape encore. Les joies spécifiques ou les actions hebdomadaires sont présentées devant Allah. Il a dit que les lundis, les jeudis, les actions sont présentées devant Allah et je souhaite que quand Allah voit mes actions, je suis en état de jeûne. Le prophète, il fait fikar. Il se fait du souci quand Allah va voir mes actions. Comment il va, en ce sens, en Dieu, mais comment est-ce qu'il va percevoir ses actions? Est-ce qu'il sera content de moi, oui ou non? Ben, si je suis en état de jeûne, j'ai un peu plus de chance qu'Allah Ta'ala m'accepte. An-Nabi alayhi salatu wa salam. Donc, si on arrive à intégrer ça que dans mes bonnes actions, je recherche ridallah, contentement des gens, déjà on va enlever l'ostentation, on va enlever toutes ces choses qui sont nuisibles, mais on va développer la qualité de l'action. Parce que je vais m'appliquer quand je fais Allahu Akbar, faire en sorte que ma salah est tellement bien faite qu'Allah est content de moi, qu'Allah est satisfait de moi, que cette salah fait plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose que je cherche dans tous les a'mal, c'est objectif paradis. Mon objectif, c'est qu'Allah Ta'ala m'accorde le Jannah. Parce que le contentement d'Allah nous amène vers le paradis. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, enfin, il y a tellement de versets, le jour des comptes, il y a deux solutions. Fariqun fil Jannah, wa fariqun fil Sa'ir. Il y a un groupe de gens qui iront vers le paradis, et un groupe de gens qui iront vers l'enfer. Il n'y a pas une troisième solution. On va dire qu'il y a Ashab al-Araf, mais ça c'est une exception, et en finalité ils vont aller, Inch'Allah, vers le paradis. Mais il y a soit le paradis, il y a soit l'enfer. Dites-moi, qu'est-ce qui fait qu'on prend une direction plutôt qu'une autre? Nos a'mal, mes chers frères. La foi et les bonnes actions. Le prophète me dit que lorsque vous allez au cimetière, vous enterrez quelqu'un, il y a trois choses qui suivent le mu'min. C'est sa famille, ses biens et ses actions. Lorsqu'on a enterré la personne, la dernière personne est partie, le défunt entend les pas de la dernière personne qui quitte sa tombe. Sa famille s'éloigne, ses biens s'en vont, la famille retourne. Les biens, ils retournent. On va faire le miras, le taksim, le partage, l'héritage. La seule chose qui reste avec lui, c'est quoi? C'est a'mal. Malheureusement, le prophète n'a pas dit les a'mal saliha. Le prophète m'a dit c'est a'mal, c'est action, mais en général. C'est-à-dire les bonnes actions comme les péchés. Et le jour des comptes, le prophète m'a dit que la personne, le musulman, se présente devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal. Il est seul. Il angoisse là, il stresse. Il est seul. Il croyait que Moulissa soit avec lui ou alors telle personne. Il n'a pas personne avec mon frère. Tu y vas seul en sortant. Il regarde à sa droite, qu'est-ce qu'il voit? Uniquement les actions qu'il a amenées depuis ce dunya. Il regarde à sa gauche, qu'est-ce qu'il voit? Uniquement ce qu'il a amené comme action. Et il regarde devant lui, il voit le jahannam. Il sait que la seule chose, bi'idhnillah, qui va le sauver, ce sont les bonnes actions et la clémence d'Allah au-dessus de tout, bien sûr. Donc quand je fais une bonne action, je recherche le contentement d'Allah, Mon objectif, c'est le paradis. Et je suis bien conscient que si mon objectif, ce n'est pas le paradis, si je n'ai pas atteint l'objectif, mais c'est l'enfer, mes chers frères. Si je n'ai pas atteint l'objectif du paradis, Allah musta'an, qu'Allah nous protège, l'autre éventualité, il n'y en a pas 50, c'est le mécontentement d'Allah, c'est le paradis. Et mon objectif, c'est quoi également? C'est de faire en sorte, ça c'est la consécration qu'on a dit en introduction, que dans le paradis, j'ai ma femme et mes enfants avec moi. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum, protégez-vous de l'enfer, mais pas que vous. Wa ahlikum nar, protégez-vous et votre famille de l'enfer, parce que l'enfer, Allah Ta'ala décrit, c'est dur ça, c'est terrible ça. Wa quduha an-nas, c'est quoi? Qu'est-ce qui permet à l'enfer de se développer? C'est quoi le combustible de l'enfer? C'est pas le charbon, c'est an-nas, c'est les hommes. C'est les hommes et les pierres. Et qui c'est qui dirige l'enfer? Vous voyez, même dans les termes, le ren, le zay, le shin, c'est des lettres qui choquent. Des anges qui sont durs, qui sont sévères. Des anges qui ne savent pas c'est quoi la pitié. Des anges qui n'ont pas un atome de rahma de leur cœur. C'est pas qu'il va voir quelqu'un qui était mu'mine, mais qui a fait des erreurs, il est dans le jannah, va dire que, oh Allah, tiens-le, ou alors on va soulager. Là, oh Allah, la ya'asun Allah, amaram. Si quelqu'un est dedans, il va souffrir comme tout le monde. Qu'Allah nous protège. Donc, dans mes a'mal, à chaque fois que je fais une bonne action, je me dis que mon objectif, c'est d'atteindre le paradis. Et celui qui atteint le paradis, donc, par opposition, il s'est protégé de l'enfer. Faman zuhziha 'anil nar, wa udkhila al-jannah. Si on se protège de l'enfer, on obtient le paradis. Et là, c'est quoi ça? C'est faqad faz. Cet homme-là, il a obtenu le succès, le vrai succès. Donc, mes chers frères, à chaque fois que je fais une bonne action, je dois me mettre à l'esprit, je cherche la crainte d'Allah, je cherche le contentement d'Allah et je cherche le paradis. Et après ça, dites-moi encore si quelqu'un va faire des actions avec routine, avec lassitude. Il n'y aura plus de lassitude. Parce que chaque jour, chaque action, on va augmenter dans notre désir de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On vous racontera une petite... un passage d'un grand hadith quand Allah Azza wa Jal, mais là c'est vraiment le rêve de toute créature, là on parle d'une situation où il n'y a plus de takalif, il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus d'interdit, c'est quand les gens sont installés dans le Jannah, quand tous les gens du paradis sont dans le château, dans le palais du paradis et qu'ils pensent que ça y est, ils ont atteint le summum du bonheur. Tout d'un coup, le hadith est long, on va dire en français parce qu'on ne veut pas dépasser 2h30. Tout d'un coup, ils vont voir une lumière dans le ciel et les anges vont s'adresser que « Oh, ya ahl al-jannah, vous avez un rendez-vous avec votre Seigneur. » Là, ils vont voir une lumière dans le ciel du paradis qui est déjà illuminé. « Allahu Akbar, Allah maj'alna minhum min ahliha. » Et là, Allah Azza wa Jal va s'adresser à tous les gens qui sont dans le paradis. « Ya ahl al-jannah, salamun alaykum. » « Oh, vous les habitants du paradis, que la paix soit sur vous. » Les gens, ils sont saisis, Allah Akbar, je suis dans le paradis, Allah Ta'ala, il me dit encore, salamun alaykum. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dal jalal wa l'ikram. Ils vont répondre par cette formule magnifique, oh Allah, la paix vient de toi. Oh Allah, c'est toi, salam, la paix, c'est toi, oh Allah, et de toi vient la paix, et à toi la bénédiction. Ils vont faire les éloges, les louanges d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal va s'adresser à eux. Et dans le hadith, il dit que c'est la première fois qu'Allah s'adressera aux gens du paradis. Il dit, awwal ma yasma'uhu min rabbihim, liya ahl al-jannah, ayna ibadi, alladhina ta'uni bil ghaib wa lam yarawni. Où sont mes serviteurs qui m'ont obéi sans me voir? Et là, les personnes vont dire, oh Allah, qad radina farda anna, oh Allah, nous sommes satisfaits. Nous sommes présents, nous sommes satisfaits de ce que tu nous as accordé, oh Allah, sois satisfait de nous. Et Allah Ta'ala répondra, laou lam arda ankum, si je n'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas mis dans ce Jannah. Allah Ta'ala s'adresse aux gens du paradis, il les rassure, parce qu'il y a des gens qui auront cette crainte que peut-être qu'il y aura un autre hisab, il y aura d'autres questions à répondre. Allah rassure, dit que si je n'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas mis dans ce Jannah. Et le ulama dit que regardez, ça c'est le contentement d'Allah pour l'éternité. Quand Allah Ta'ala s'adresse au Ahlul Jannah et dit que je suis satisfait de vous, c'est pour ça que vous êtes là. Ça, c'est le contentement final et éternel d'Allah. Et ce contentement d'Allah, on doit essayer de le construire, de l'obtenir jour après jour, amal après amal de ce dunya, afin que la consécration, c'est que quand Allah nous met dans le paradis, Allah atteste qu'il est satisfait de nous et c'est une satisfaction pour l'éternité, qu'on reste prouloud pour l'éternité dans le paradis. Donc mes chers frères, j'espère qu'on pourra comprendre, hein, l'objectif de ces quelques paroles, c'est comprendre le dîn. Pour comprendre également, on va aller encore un petit point, Inch'Allah, si vous me le permettez, pour comprendre l'essence, on va dire, la philosophie, la hikmah qu'il y a dans notre religion, on doit comprendre également, là on a parlé des objectifs, hein, de ce qu'on doit avoir en tête, les bonnes actions, par rapport au péché, on ne développera pas, mais juste les rousses ou l'aqlam, les titres, hein, à retenir, par rapport au péché, je dois comprendre pourquoi je ne fais pas quelque chose qui est haram. Quand je m'abstiens, je m'éloigne de quelque chose qui est interdit, c'est parce que c'est mon Allah qui me l'interdit. Si j'aimerais tellement, je suis en terminale, je suis à l'université, cette jeune fille, elle me plaît, et je sais que je lui plais aussi, qu'il y a quelque chose, il y a un courant, il y a un fluide entre nous, comme on dit, d'accord, et que je peux aller plus loin dans la relation, il sait à ma portée. Mais que Allah, mon Seigneur, mon Créateur, m'a dit voilà, taqarabuzina, ne vous approchez pas. Voilà, taqarabuzina, non. On n'a pas dit ne faites pas la judaïne, ne vous approchez pas. Ça fait partie de la preuve du zina. Le mu'min va faire passer l'ordre d'Allah avant ce qu'il a envie de faire. On est à une semaine après le mois de Ramadan. Je t'en calcule la date. On est le 27 août. Oui, le premier samedi soir. Après la nuit, après le Ramadan, samedi soir, Masti lève, il gratte partout, il gratte là, un mois il reste tranquille la case, gratte, démange, Tamar téléphone, et eh ben allons, hello, allons, la villa, la fenêtre a 4 places, on réserve une table, l'ANSA défoncé là, c'est casa. Allahu Akbar, j'ai fait un mois de privation, d'abstinence, de ibadah. Ce front là s'est posé 1000 fois sur le sol avec les salats faraz, sunnah, les salats au tarawih. On a une temps, excusez-moi, on va clôturer Inch'Allah. À ce moment précis, je me dis que, subhanallah, j'ai envie, je l'ai fait depuis 5 ans, je le fais. Depuis que j'ai 18 ans, tous les ans, je vais en boîte le samedi soir. Si c'est pas là-bas, c'est au safari, si c'est pas au safari, c'est au Zaza, partout, ben écoutez-moi, toute vidéo écoutez-moi. Mais ce mu'min, à ce moment-là, dit, qu'est-ce que j'ai acquis de ce Ramadan? Il va dire qu'il sait, il y a un madja, il y a un plaisir là-dedans. Parce que c'est quelque chose que Shaitan nous propose. Et dans chaque chose que Shaitan nous propose, il y a un plaisir réel. Il y a un vrai plaisir dedans. Je dis que non, je fais passer l'ordre d'Allah avant ce que j'ai envie de faire. Ce mu'min-là, il a compris c'est quoi abandonner un péché. Et Allah Ta'ala, le Prophète dit que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui accorde quelque chose de magnifique. Celui qui délaisse le péché alors qu'il peut le faire pour Allah, Allah lui accorde une qualité de la foi que les sahaba eux ils avaient. Halawatul iman. Halawatul iman, c'est quoi? C'est la douceur de la foi. Que quand on fait des bonnes actions, on éprouve un plaisir qui est indescriptible. Vous savez, comme ces gens qui se shootent, qui se droguent, qui fument, qui sniffent, ils éprouvent quelque chose d'apparemment exceptionnel en termes de sensations. Il vous dit que si tu touches pas ça, tu peux pas comprendre. Mais pareil, celui qui a goûté le halawatul iman, par rapport aux autres adorateurs d'Allah, les gens ne peuvent pas le comprendre. Le plaisir qu'il a à faire un sijda. Et là, on comprend comment le Prophète sallam, il se lève dans la nuit, il fait tahajjud, il lit Sourate al-Baqarah en entier. Il enchaîne Sourate al-Imran, Sourate al-Nisa. Attends, mais humainement, comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut rester concentré? Parce que ces gens-là, les sahaba, ils avaient développé le halawatul iman, ils l'avaient ça de leur cœur. La douceur de la foi, ils l'avaient de leur cœur parce qu'ils s'éloignaient du haram et Allah Ta'ala était content. Allah aime un mu'min qui s'éloigne de l'interdit pour lui et Allah Ta'ala lui accorde cette qualité. Je dois comprendre également, on terminera, pourquoi s'éloigner du péché. On a vu la première chose. La deuxième chose à développer, je dois réaliser que Shaitan c'est mon ennemi. Qui c'est qui m'émastille de mon cœur? Qui c'est qui me donne l'envie de faire telle chose? Ça s'appelle quoi? Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Le waswasa, c'est les insufflations. C'est Shaitan qui met de ton cœur, de notre cœur, l'envie de boire, l'envie de fumer, l'envie d'aller en boîte, l'envie de sortir avec une fille, l'envie pour une femme de sortir, de se parfumer pour que les hommes se retournent. L'envie de quand on sort, on a les cheveux au vent avec mon brushing pour que les hommes me trouvent séduisante. Ça, c'est les pièges, les macailles de Shaitan. On doit réaliser, et Allah Ta'ala dit, attention, ô être humain, Ya Bani Adam, chaque être humain, attention, ne faites pas, ne tombez pas dans le même piège que votre père Adam. Adam s'est laissé piéger par Shaitan. La yaftinannakum Shaitan, kama akhraja abawaykum min al-jannah. Il a piégé Adam, alayhi salam, et à cause de sa désobéissance, le fait qu'il a suivi Shaitan, il est descendu de dunya, il a dû quitter le paradis. Et Allah Ta'ala nous met en garde. Attention, Shaitan, c'est votre ennemi, ô mu'min. Inna Shaitan alakum adou. C'est votre douchman, votre ennemi. Considérez-le comme votre ennemi. Et Allah Ta'ala nous rapporte des choses qu'on ne savait pas. Des choses qui se sont passées au début de la création. Au tout début, lorsqu'Allah Ta'ala venait de créer Adam alayhi salam. Et quand vous connaissez l'histoire, quand Allah Ta'ala a ordonné à Shaitan de se prosterner, a refusé. Quand Shaitan était chassé du ciel, il a demandé à Allah quelque chose. Premièrement, il dit, il a demandé à Allah un délai. Il a demandé à Allah de ne pas de le protéger de la mort, qu'il ne meure pas. Il veut rester vivant jusqu'à la résurrection. Allah Ta'ala lui a accordé cette demande. قال فإنك من المنظرين. Allah Ta'ala lui a accordé ce qu'il voulait. La deuxième chose, il a dit à Allah, قال ربي بما أغويتني. Il s'est fait la promesse, لأزينن لهم في الأرض. Je vais les faire aimer le dunya. Je vais embellir le péché. Je fais en sorte que face au péché, ils trouvent ça extraordinaire. Et je vais faire toutes sortes de tentations. Je vais les détourner du droit chemin. Wala أغوينهم أجمعين. الإغواء c'est الإبعاد عن الصراط المستقيم. C'est exactement le contraire de ce qu'on demande. Guide-nous vers le droit chemin. Et al-Irwa, là où il y a Nahum, c'est éloigné du droit chemin. Allah Ta'ala nous rappelle, attention, Iblis s'est fait la promesse de telle, telle chose. Et la cible de Iblis, c'est qui? C'est vous, ô mu'min, tous ceux qui ont la foi de leur cœur. Et Allah Ta'ala nous met donc en garde. Allah Ta'ala nous met en garde que l'objectif c'est innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. L'objectif de Shaitan, c'est pas que vous vous sentiez bien de ce dunya, c'est pas de faire profiter aux gens des plaisirs de ce monde. Non, l'objectif de Shaitan, c'est d'amener un maximum de gens avec lui dans le Jahannam, parce que lui il sait qu'il est condamné. C'est la seule créature qui est condamnée. Il aimerait que le maximum de insan, d'êtres humains, il voudrait que Oussama, que Yamin, que Abdurrahman, que Irfan, que tous ces gens-là soient avec lui dans le Jahannam. Parce que lui, il sait qu'il n'a aucune chance, mais il voudrait que les gens soient avec lui. Et quand les gens seront avec lui dans le Jahannam, là aussi Allah Ta'ala nous explique qu'est-ce que Shaitan nous dira. Quand il a entraîné quelqu'un toute sa jeunesse et sa vieillesse aussi dans la désobéissance d'Allah, ils seront avec lui dans le Jahannam. Là, le bouc garde Shaitan comme ça. Il dit, ah, où est-ce que nous fait tout ça? Shaitan dit, sort, là, qu'a fait là? Shaitan dit, wa qala Shaitan, ou lama qudhi al-amr. Shaitan dira, quand qudhi al-amr, ça fait peur ça. Autant qudhi al-amr, c'était magnifique quand on parlait du paradis, c'est-à-dire quand tout sera réglé. Quand les gens du paradis seront dans le paradis, les gens de l'enfer seront dans l'enfer. Quand on parle du paradis, on est heureux. Quand les gens du paradis sont dans le paradis, on n'en sort plus. Alhamdulillah, qudhi al-amr. Mais quand on parle de qudhi al-amr de Jahannam, c'est plus problématique. Parce que quand on y est là, c'est un problème. La maqoubi al-amr, Shaitan va dire aux gens qui lui feront des reproches, Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Allah vous a fait une promesse, lui. Restez dans le droit chemin, iman, a'mal, salihah. Éloignez-vous des péchés, vous aurez mon contentement, le paradis. Wa wa'adtukum, maman dit cette autre chose. Wa wa'adtukum, je vous ai fait une autre promesse. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Et Shaitan, il dit que je vous ai enduit en erreur. Wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an, moi je vous ai rien, je vous ai pas obligé de faire ça. La seule chose que je pouvais faire, c'est illa an da'awtukum, je vous ai incité à faire ça. Fastajabtum li. Aw la kutama. Je vous ai tenté vers ces péchés, je vous ai montré les boîtes de nuit comme étant une source de plaisir. Être avec une fille, tenir sa main, embrasser une fille, flirter avec une fille, c'est comme si vous êtes avec une hur al-ayn. C'est le summum de le plaisir. Fumer un joint, c'est le plaisir. Boire, c'est un plaisir. Aller à l'encontre de ce que le vieux, la vieille nous dit, c'est la liberté. Je vous ai juste présenté ça. Je vous ai pas obligé. Vous m'avez écouté. Aujourd'hui, ne me faites pas de reproches, faites de reproches à vous-même. Toutes ces étapes-là, depuis le début, avant qu'on ait été créé, jusqu'à ces objectifs, jusqu'à la finalité, Allah Ta'ala nous explique, attention, ô musulmans, voici le déroulé, voici le rapport de Shaitan avec vous, donc faites attention. C'est donc quand je suis face à un péché, je dois me rappeler de tout ça pour comprendre que je ne dois pas tomber dans le piège de Shaitan. Et comment ne pas tomber des pieds de Shaitan? La pensée d'Allah. Ça, c'est un autre chapitre. On va pas le développer. Muraqabatullah. Muraqabatullah, c'est quoi? C'est toujours penser à Allah. Garder la présence dans notre cœur, premièrement. Al-i'tiqad, la conviction qu'on retourne auprès d'Allah. Quand il y a quelqu'un qui meurt, qu'est-ce qu'on dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient à Allah et on retourne auprès d'Allah. Mais on retourne auprès d'Allah pour faire quoi? Quand la Ta'ala dit le verset qu'on a cité, on a bloqué le chari et le khair fitna, et auprès de nous vous retournez. Vous retournez auprès d'Allah et Allah vous juge en fonction de vos actions. Allah Ta'ala prend la décision où est-ce qu'il vous oriente en fonction de nos actions. Donc face au péché, pour délaisser le péché, premièrement, développer la présence d'Allah dans notre camp en permanence. Chose que j'arrive à développer dans la salat, chose que je développe dans le sang et dans tous les a'mal, et les garder dans ma vie de tous les jours. Et deuxièmement, conviction dans ma tête que je dois un jour retourner auprès d'Allah. Et je dois donc préparer ce retour à cette rencontre avec Allah Azzawajal et être conscient qu'à chaque fois je fais un péché, il y a des shuhud, il y a des témoins, les anges qu'on a cités tout à l'heure, il y a la terre, le jour des condamnés, la terre, le lopin de terre où vous avez fait le péché, va témoigner que sur mon dos il a fait tel péché. Dans cette hadith dit que le mu'min, le musulman posé dans la tombe, le pécheur, la terre va dire tu marchais sur mon dos, tu étais la personne la plus détestable pour moi. Aujourd'hui tu vas voir comment on va te torturer. C'est-à-dire même la terre va témoigner, même les membres de mon corps, yom tashhadu alayhim, il est lu dans le djihad shara ya santarawih yom tashhadu alayhim masnatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Tout ce qu'ils ont fait avec leurs mains, leurs bras, leurs jambes, leurs langues, ils vont tous témoigner. Et hadith dit que le jour des comptes, Allah Ta'ala va rendre la personne muette, la personne ne pourra plus parler. Et Allah Ta'ala va dire aux membres du corps de la personne, en tiqi, parler. Et là, ils vont dire que la main va dire qu'il a fait tel péché. Les pieds disent qu'on est parti vers tel endroit. Hadith dit que quand l'homme aura à répondre, hatta fi khutwatin, chaque pas qu'il a fait, qu'est-ce qu'il voulait à travers ce pas? Je rigole pas là-haut, hein. Chaque pas qu'on a fait, qu'est-ce qu'on cherchait à travers ce pas? Répondre. Et à la fin, quand tous les membres du corps ont témoigné, Allah Ta'ala redonnera la parole à cette personne et la personne va dire Bu'adan lakunna. Hein, pourquoi donc vous avez fait ça? Fa'an kunna kuntu unadil. Mais quand je faisais des péchés, je recherchais votre contentement, je recherchais le plaisir physique. Et aujourd'hui, vous témoignez contre moi. Donc, quand on efface un péché, réalisez également que toutes ces personnes-là, tous ces membres vont témoigner, il y aura des shuhud. Et être conscient, et ce sera là le point final, être conscient que j'aurai des comptes à rendre sur chaque action. Bon musulman, réfléchissons. Réfléchissons à ce verset, méditons sur ce verset. Si quelqu'un a le Coran, qu'il retienne ce verset et qu'il aille à sa maison et qu'il lise le tafsir Ibn Kathir en français, il lit quelle sera ma situation lorsque je vais voir la balance installée pour l'humanité et que chaque homme se rapproche de la balance pour voir ses actions pesées. C'est comme quelqu'un il prend un avion, il pèse ses bagages, pareil, les a'mal seront pesés. Et là, quelqu'un qui a fait un atome, un iota de bonne action sera pesé. Même si c'est une action qui est comme une graine de moutarde, il sera pesé dans la balance. Mes choix seront déterminants. Quand mes amis m'invitent vers boîte de nuit, quand cette jolie fille me demande si je voudrais bien sortir avec elle, quand mes parents me demandent amène-moi un docteur, ou amène-moi telle chose, ou aller acheter de pain, ou aller faire mes courses, quand une femme s'apprête à sortir de sa maison et qu'elle a le choix de ses vêtements, ce moment-là, c'est le moment crucial où on fait notre choix. Et c'est ce choix-là qui est déterminant. C'est à partir de ce choix qu'on décide quelle sera ma situation auprès du mizan. Il y a des gens près de la balance seront apaisés parce qu'ils voient qu'est-ce qu'ils ont comme action. Et ils savent de ce dunia, ils n'ont pas fait les mauvais choix. Mais il y a des gens qui auront du souci à se faire. Allah, c'est qu'Allah nous protège, ils auront du souci à se faire. Donc prendre conscience, quelle sera ma situation quand je vais voir les gens s'aligner pour la peser des actions? Quelle sera ma situation quand Allah Ta'ala me remettra mon livre, soit dans la main droite, soit dans la main gauche, qu'Allah nous protège, et Allah Ta'ala dira Iqra' kitabak, maintenant lis ton livre. Et les mufassirin disent que kitab yalqahu manshura, le livret des actions sera ouvert, on peut le lire, les autres personnes peuvent le lire. Et Allah Ta'ala va dire kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Aujourd'hui, c'est toi-même qui es ton propre comptable, ton propre juge. Lis ce que tu as fait. Et l'être humain va reconnaître en 1982, effectivement. En sortant du bus, j'étais en seconde, j'ai rencontré cette fille, je suis resté avec elle, on s'est rencontrés, on a une relation. De mai 82 à juin 82, c'est tout. J'ai oublié, j'ai oublié ce péché, j'ai même oublié de demander tauba. J'ai même oublié que c'était un péché, je croyais que c'était comme ça la vie. Et on retrouve, si on n'a pas su demander tauba, on retrouve l'intégralité des péchés. Mais on retrouve également, inshallah, alhamdulillah, l'intégralité des bons choix, des bonnes actions. Donc on doit se préparer pour ce moment. On doit se rappeler également ce verset, voyez, on m'a une sourd, hein, lorsque le sera soufflé dans la trompe, hein, il dit que les moments d'angoisse, fafazia, toutes les créatures, on peut même les ambiens, alayhi salatu wa salam, vont tomber sur leurs genoux. Et dans sourate Ash-Shu'ara, il dit que yawma idin yattabi'una ad-da'iya la 'iwajala wa khasha'at al-aswatu lir-rahmani fala tasma'u ila hamsa. Il dit que le jour des comptes, il n'y aura ni soleil, ni la lune, ni les étoiles, soit l'obscurité totale. La première étape, il y aura i'lan, que les personnes viennent vers la terre où on répond au compte. Il dit que là que les gens auront tellement peur, les gens seront tellement angoissés qu'ils vont avancer dans l'obscurité, ils ne voient rien et on n'entendra rien, même pas un murmure. Fala tasma'u illa hamsa. Et al-hams, c'est le bruit des pas. C'est à ce moment-là qu'on se sentira seul avec des milliards d'êtres humains comme nous. Il y a des milliards d'êtres humains, mais chaque personne se sentira seule. On ne pense même pas à parler, à s'adresser à notre prochain, parce qu'on sait que les comptes vont commencer. On va jouer notre destin, on va jouer notre avenir. Et dans ces moments de stress, d'angoisse, parce qu'on joue l'éternité, la seule chose qui me sauve, c'est quoi ? Manja abil hasanati falahu khayrun minha. On vient avec des bonnes actions, Allah est content de nous, on nous garantit, inshallah, le paradis. Man ya'mal as-salihati wa huwa mu'min, fala yakhafu dhulman wa la hadma. Celui qui se présente devant le tribunal d'Allah avec les bonnes actions, il n'aura aucune crainte. Mais celui qui se présente comme négatif commente le verset wa man ja'a bis-sayyi'ah fakubbat wujuhuhum fin-nar. Ces personnes auront la face culbutée, le visage premier de l'enfer. Il dit que man rajjahat sayyi'atuhu 'ala hasanat, celui qui se présente devant le tribunal d'Allah devant la balance avec beaucoup de péchés et peu de bonnes actions, la personne aura énormément de soucis à se faire. Et la règle dans l'au-delà, c'est quoi? Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, n'êtes-vous pas uniquement rétribué selon ce que vous œuvrez? C'est maintenant, mes chers frères et sœurs, qu'on prépare notre éternité, qu'on prépare notre au-delà. Et la meilleure façon de préparer cette éternité, cet au-delà, c'est de s'appliquer dans les amal, dans les piliers qu'Allah nous a rendus obligatoires. Et ce Ramadan en ce moment, c'est salat qu'on accomplit régulièrement, c'est salat de tarawih, c'est lecture du Coran, c'est dhikrullah, développer l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, développer la pensée d'Allah en permanence de notre cœur, comprendre que mon objectif c'est le contentement d'Allah, mon objectif c'est le paradis, mon objectif c'est d'être éloigné de l'enfer. C'est que ma femme, mes enfants soient avec moi dans le paradis, pas que moi j'entre dans le paradis et eux ils vont dans l'enfer. Mon objectif c'est qu'Allah soit satisfait de moi. Quand l'ange de la mort prend mon âme, c'est l'ange de la bénédiction. Dans la tombe, je suis un homme tranquille, heureux, une porte du paradis s'ouvre pour moi et je vois exactement. Le passage me dit que pour chaque personne qui vient de ce dunya, Allah Ta'ala crée sa place dans le paradis, sa place dans l'enfer. Lorsqu'un mu'min entre dans le paradis, avant d'entrer, Allah Ta'ala le montre, quelle aurait été ta place dans l'enfer si tu n'avais pas suivi le droit chemin. Et là il va dire Alhamdulillah, il va remercier Allah qui m'a protégé des pulsions, des péchés et qui m'a amené vers le droit chemin. C'est ça l'aboutissement de la vie d'un musulman. C'est pas que les 30 jours de jeûne. L'aboutissement il est là-haut, mais on travaille ça par les amal. Maintenant, qu'Allah nous accepte, mes chers frères, je m'excuse, hein, on a bien dépassé le temps. Mais vu la distance, les 90 km, hein, vous me pardonnerez, Inch'Allah, qu'Allah illumine nos cœurs, moi en premier. Qu'Allah donne tawfiq de comprendre, de réaliser qu'à partir d'aujourd'hui, on se dit que je pratique différemment. Je pratique avec conviction, avec yaqin, avec khushu'. Je recherche at-tadhallul wal khudu', l'humilité, la dévotion vers Allah dans tout ce que j'accomplis. Et je vais au cœur de l'action, au cœur de ce qu'Allah Ta'ala a rendu obligatoire pour obtenir le contentement d'Allah. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.